Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette nouvelle saison, nous accueillons des artistes de la nouvelle scène française. Elles font parler d'elles et nous avions envie de leur donner la parole.
En japonais, son nom de scène signifie étoile. Et avec deux albums, Il suffit d'y croire et Sommeil levant, cette chanteuse à la guitare en bandoulière et à la plume agile, sans oublier une détermination assez bluffante, a réussi à devenir une étoile de la scène française. En témoigne Étoile Flippante, où tu rajoutes, Oshi, pas moins de 13 titres à ton second album. Alors ma première question va être extrêmement pragmatique, mais ça pourrait être un troisième album, non ?
Ma réponse va l'être aussi, parce que ça n'en est pas un. En fait, il faut mettre un mot dessus, donc j'ai mis réédition, mais en fait c'est un double album, Sommeil Levant. Voilà, c'est juste que je voulais lier vraiment les deux, donc il fallait dire un mot et j'ai dit réédition. Mais j'ai travaillé comme un troisième album.
Justement, qu'est-ce qui a nourri ces nouvelles chansons ? Quels ont été peut-être les ponts entre Sommeil Levant et Étoile Flippante?
Déjà, sur le deuxième album, donc Sommeil Levant, je finis sur Médicament, qui est un texte plutôt sombre, plutôt plein de questionnements. Je dis dedans, j'ai besoin d'un médicament, je voudrais survivre, mais dis comment? Et en fait, je donne les réponses dans la suite, dans Étoile Flippante. Je réponds à tout ça, toujours avec des questionnements, parce que je suis une flippée, et ça parle bien son nom, Étoile Flippante. Le lien direct, c'était cette chanson, et ensuite, le confinement, quoi. Je me suis retrouvée enfermée avec un album qui venait de sortir, qu'on ne pouvait même pas vraiment acheter, qu'on ne pouvait pas défendre sur scène. Enfin voilà, je regardais mon album disponible, mais que personne ne pouvait vraiment avoir. Et je regardais le fruit de mon travail un peu bloqué, quoi. Ouais, ça m'a fait très mal pendant 2 semaines. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, autant faire d'autres chansons, en fait, autant écrire la suite. Et comme ça, quand je reprendrai la scène, déjà, j'aurai énormément de titres à jouer et il faudra faire un tri. Du coup, j'ai écrit, puis ça a donné 13 titres. Je me suis pas arrêtée, en fait. Enfin, juste qu'à un moment donné, il fallait le sortir, donc je me suis dit, OK, on y va.
Finalement, la spontanéité, c'est un petit peu le mot d'ordre de ta carrière depuis le début?
Ouais, ça fait faire énormément de choix que personne ne comprend, parfois. Mais en tout cas, moi, je les comprends toujours. En fait, si directement j'ai une envie, c'est que je vais l'avoir longtemps. J'ai jamais de caprice, entre guillemets. Je me suis pas dit, OK, je veux faire un nouvel album. Et tout. Non, je me suis dit, je veux faire de la musique. J'ai besoin de le faire. OK, la réédition est fratricide. J'ai demandé l'avis de personne et je l'ai fait, quoi. Et c'est souvent comme ça que j'agis, ce qui peut parfois stresser mon entourage, parce que du coup, j'agis sur des coups de tête. Et les coups de tête, c'est bien quand t'es tout seul, mais quand t'es plein, c'est plus compliqué. Mais c'est aussi ce qui fait que ce que je suis et ce que mon projet fait aujourd'hui.
Et Étoile Flippante, ce nom, donc là, tu viens de l'expliquer, il est lié à plein de choses, voilà, de frayeur, le confinement, je pense qu'on a tous vécu quand même aussi des moments, on va dire, très anxiogènes, très flippants.
Bah ouais, je me suis retrouvée à faire quelques crises d'angoisse alors que j'en faisais pas, quoi. Il y a plein de gens dans mon cas, hein, mais j'avais une boule à la gorge d'anxiété, quoi. Je savais pas pourquoi, parce que j'allais bien, j'avais l'impression d'aller bien, en fait, comme tout le monde, je pense. Mais en fait, c'était dur, cette période.
Étoile Flippante, pourquoi ce titre qui, sans le vouloir, fait écho au propos d'un monsieur dont on ne citera pas le nom et qui utilisait le terme effrayante en parlant de toi?
Ouais, en fait, il y a même un comble, quoi, parce que c'est vrai que dans cette réédition, je parle de mes angoisses, la peur de la nuit, la peur du temps, la peur de la rupture, la peur de l'amour, la peur, plein de peurs, plein de choses, plein de trop. Et il y a ce monsieur qui a peur de moi, en fait, et qui veut pas que je sois en poster. C'est un comble, parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui sont beaucoup plus inquiétantes qu'un poster. Après, ça relève aussi de vrais problèmes de société. Au-delà du fait qu'il ait dit ça et que ça me visait personnellement, en fait, ça visait tout le monde, ça visait toutes les femmes, je pense, de ce milieu. Et c'est pour ça aussi, je pense, que j'ai reçu énormément de soutien. Tout le monde s'est dit, ça aurait pu être moi, en fait. Et je pense que ça serait arrivé à des artistes que je connais, même que je connais pas, mais des artistes féminines, ou même masculines, parce qu'enfin, il y a des artistes masculins qui s'en sont pris plein la gueule par ce mec aussi, juste après. Mais ça serait arrivé à n'importe qui, je serais intervenu, parce que c'est pas possible, en 2021, d'avoir des propos comme ça. Puis c'est plus un dérapage, quoi. C'est un drift, je pense. Quand tu parles de ça pendant 10 minutes et qu'après t'assumes pas et que tu dis c'est un dérapage, c'était en aucun cas sexiste, ça l'était. C'est juste qu'après, il a parlé des hommes artistes et de leur physique aussi pour se rattraper, histoire de, si ça sortait, se dire que c'était pas sexiste. On connaît, hein, ce cheminement. Mais là, il s'est foiré.
Personne n'est dupe.
Personne ne l'est et faut que ça s'arrête, en fait. Je pense qu'à un moment donné, non, on tolère plus ça. Et là, on laisse vraiment plus rien passer, quoi.
Oshi, tu es une résiliente. Tu as subi, alors que tu étais encore adolescente, deux agressions homophobes assez violentes. Il y a encore quelques semaines, cette nouvelle sortie de ce monsieur, dont on ne citera toujours pas le nom, et dont on se serait bien passé. Puis, après le soir des Victoires de la musique en 2020, pour un petit bisou, tu as reçu des messages extrêmement menaçants. Sachant qu'en 2003, quand Madonna embrassait Britney Spears sur scène devant un public fou de joie, cela ne posait de problème à personne. Pour ce petit bisou, tu as été menacée, clairement.
Ah oui, oui, mais vraiment, physiquement. Ouais, enfin, ils m'ont cherché, ils ont trouvé presque mon adresse. Ça a été compliqué pendant des mois, quoi, ouais. Et c'est marrant, parce que ce baiser, justement, entre Madonna et...
Elle l'avait fait avec les deux, avec Britney et Christina, ouais.
C'est pour ça. En tout cas, elle l'a fait deux fois. Mais ces bisous-là, en fait, je pense que même s'ils étaient militants dans l'acte de faire ça à la télé, il n'y avait pas la chanson derrière avec les propos homophobes. Et je pense que c'est ça, moi, qui a encore plus énervé les gens. En tout cas, je sais que déjà, avant les Victoires, je recevais déjà des menaces des adhérents de la Manif pour tous, voilà, qui ne supportaient pas que j'ai utilisé leur image dans mon clip... pour imaginer ce que j'appelle l'homophobie, en fait. Mais en tout cas, je recevais vraiment beaucoup de menaces déjà. Puis, alors, ça a été dupliqué, multiplié fois à mille avec les Victoires, parce que je suis allée jusqu'au bout, en fait. J'ai reçu des menaces, hein, même avant ma prestation, qui disaient « on va, entre guillemets, niquer ta prestation aux Victoires ». Donc, j'ai flippé le jour J. Au final, j'ai eu un problème technique, hasard ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'était c'est la totale ce jour-là, vraiment.
Et après, il y a eu effectivement le confinement. Donc la période, oui, avait de quoi être flippante.
Ouais, puis il y a eu le problème, c'est que ça, c'était en février. Puis c'était pas longtemps après le confinement, le Covid, tout ça. Donc finalement, en quelques semaines, je me suis pris, mais en fait, je me suis pris plein de menaces de mort. Je me suis dit, OK, l'album, je vais le défendre, c'est trop bien et tout. Puis en fait, plus rien. Enfin, en fait, je me suis retrouvée seule chez moi, quoi, avec les menaces de mort que j'avais eues. L'album, finalement, je pensais qu'il allait me faire aller mieux, quoi, me sortir de tout ça. Puis surtout la scène qui allait me dire que j'ai toujours trouvé une bonne raison de chanter cette chanson et être motivée de la chanter. Bah, ça arrivait un an et demi après. Par contre, il y a quelques jours, j'étais sur scène et Amour Censure, elle a pris tout son sens.
J'ai l'impression que la résilience passe aussi par la scène chez toi.
C'est mon moyen d'aller mieux et c'est mon moyen de guérir et c'est mon moyen de comprendre pourquoi parfois tout ce que je peux subir dans ce milieu fait mal, mais finalement n'est rien par rapport au bonheur qu'on peut ressentir sur scène. Ouais. Et c'est ce que j'ai compris. Il y a trois jours, je jouais à Chalon-sur-Saône. Je suis arrivée sur scène, j'avais envie de pleurer déjà de bonheur, comme tous les artistes, je pense. Mais vraiment, le gros moment de ce concert, c'est quand j'ai fait Amour Censure. Il y avait plein de drapeaux LGBT dans la salle qui sont sortis, je les ai pris, je suis allée voir. C'était un beau moment, quoi, un beau moment de partage. Et là, je me suis dit, OK, je m'en suis vraiment pris plein la gueule. J'ai vraiment morflé, franchement, depuis des mois. Mais c'était pour ça. Et ça, ça vaut toutes les misères du monde, quoi.
Et finalement, tous les activistes en prennent plein la gueule. Tous les activistes souffrent à un moment donné. Parfois même, ils perdent leur vie, on sait, dans plusieurs combats.
C'est horrible, ouais.
Est-ce que c'est ce que tu es? Là, tu es en couverture du magazine Têtu, en disant que tu es fière.
Ouais, à fond. Enfin, c'est un rêve d'enfant, quoi. J'avais 15 ans, je me faisais agresser dans la rue. Et là, au final, aujourd'hui, je peux en parler librement et je suis en couverture de Têtu. C'est beau, quoi, comme histoire, quand même.
Ça compte pour toi d'être militante?
Ça compte. Ça comptait pas avant Amour Censure, parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir le faire, parce que j'avais pas la musique derrière. Moi, j'aime bien lier mes combats avec la musique. Je trouve que ça a plus d'appui. En tout cas, je suis plus à l'aise pour après mettre des mots dessus. Mais c'est vrai qu'Amour Censure m'a donné la force que j'avais pas, en fait.
Ouais, donc le chant est une arme.
C'est une arme et le fait de pouvoir utiliser une mélodie et un air, voilà, que les gens peuvent chanter sans parfois réfléchir aussi au texte profond. Combien de gens ont entendu Amour Censure et n'ont pas capté le texte direct? Je me dis, sur ça, changer l'esprit des gens, parce qu'il y a peut-être plein de gens qui l'ont chantonné, qui se sont dit, ah merde, ça se trouve, en fait, elle parle d'homophobie, merde, je suis con, quoi, ou je suis conne. Enfin, ils se sont peut-être dit ça. Et du coup, je pense que ça peut faire évoluer, peut-être un petit peu. Je suis encore un peu utopiste.
Et il y a cette formule de Gloria Steinem, sur laquelle je fais réagir tous mes invités. C'est « La vérité vous libérera, mais d'abord, elle vous mettra en rage ».
C'est vrai. Pour plein de choses, c'est vrai, en fait. À chaque fois qu'il se passe un truc aussi, depuis le début, là, que ce soit les homophobes, le monsieur qui a dit que j'étais effrayante, dit que c'est Voldemort parce qu'on prononce plus son nom, en fait, c'est drôle. Toutes ces choses-là me mettent dans une rage profonde. Je réfléchis même pas avant de poster, avant de m'énerver, sur les réseaux sociaux. Mais après, je vais mieux. Parce que la vérité, je la comprends. Une fois qu'on la comprend, ça veut dire qu'on l'accepte. Et aussi, faut comprendre que tout le monde n'a pas la même vérité, je pense. Et il n'y a pas de science infuse. En tout cas, moi, ma vérité, c'est de continuer de faire ce que j'aime. Et la vérité, c'est que je le ferai toujours, peu importe ce qui se passe. en fait, c'est ça.
Donc, étoile flippante, mais en fait, tu n'as pas peur.
Je flippe sur plein de choses, mais pas sur mon art, entre guillemets. Je flippe de la nuit, je flippe, ce que je disais, ouais, du temps qui passe, de la mort, de plein. J'ai plein d'angoisses, de phobies. Je suis remplie de phobies, de peur, en fait. C'est pas des phobies, mais c'est, j'ai la peur des insectes, peur de plein de choses, mais qui peuvent me mettre dans des angoisses profondes. Très angoissée, mais par contre, jamais peur d'arrêter de ce que je fais, quoi. Tout ce qui a un rapport avec la musique, ça me rend plus forte. J'ai moins peur, en fait, avec la musique.
Ouais, c'est un bouclier, quelque part.
C'est un bouclier, c'est une épée aussi, du coup. C'est les deux en même temps. Ouais, c'est une raison d'aller mal parfois pour aller mieux, en fait. C'est très bizarre comme phrase, mais c'est vrai que je peux aller parfois très mal quand j'arrive pas à avoir le résultat que je veux sur une chanson. Quand il y a la pression derrière, les équipes, les machins, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je suis très, très, très angoissée. Donc forcément, quand il faut que je fasse que j'aille partout, à droite, à gauche, c'est tout m'angoisse. Mais par contre, la récompense est d'autant plus belle. Et donc, du coup, à chaque fois, finalement, ça me rassure. Ouais, ça me rassure.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tu te souviens de la première fois où tu as chanté?
Ouais, c'était à 15 ans. J'ai chanté très tard. J'aimais pas chanter avant. Et c'était Zombie des Cranberries. Et c'est là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire et toute ma vie. J'aime ça, même pas, peut-être que je voudrais faire ça maman. Non, c'est, je veux faire ça et je le ferai.
Ça a été un déclic.
Ouais, j'ai dit direct à mes parents. Ils m'ont dit, bah, calme-toi. Et je dis, non, je vais faire ça. Et j'ai fait ça.
Et ce qui est assez étonnant dans ton parcours, c'est que t'aurais pu être la révélation de télécrocher. T'avais cette possibilité-là et t'as préféré faire tes armes dans la rue.
J'ai préféré faire mes armes dans la rue. Je suis passée par un petit télécrochet qui était Rising Star, mais qui n'a pas marché du tout, et j'ai refusé The Voice. Je crois que ce qui m'angoissait le plus dans tout ça, dans tous ces télécrochets, c'est la reprise imposée. Imposée, toujours la télé, imposée plein de choses. Et en fait, moi, j'aime pas qu'on m'impose des choses, et c'est un grand drame, hein, parce que je pense qu'il y a plein d'émissions que je fais pas alors que je devrais faire. Mais s'il y avait eu une émission à l'époque où j'aurais pu venir présenter mes compos, j'y serais allée. Je veux pas qu'on me mette dans un moule, je veux chanter ce que j'ai envie de chanter. En plus, j'écris mes chansons, j'ai pas envie qu'on m'impose, qu'on me les écrive. Voilà, il y avait plein de trucs qui rentraient en jeu, quoi. Et du coup, j'étais bien dans la rue, en fait. Si demain, on me demande à une télé de faire une reprise et que je peux choisir avec qui je la fais, au moins la chanson, et juste qu'on me dit « fais une reprise », ça, c'est normal, c'est la télé. Là, ça va. Par contre, si on me dit « tu chantes ça avec cette personne », j'ai pas envie, en fait. Ce que j'aime pas, c'est pas, il y a pas de moment, il y a pas de magie, en fait. Ça, c'est deux labels qui s'appellent, c'est pas beau, quoi. C'est pas... Ça fait pas rêver. Et en fait, dans toutes mes collaborations, ça s'est fait que au côté humain, que voilà, j'ai jamais été jusqu'au bout d'un truc si ça, je sentais pas le feeling et l'humanité derrière le projet. Du coup, je passe à côté de plein de trucs sur moi, mais c'est pas grave.
Bah, et donc, je pense à celle avec Benjamin Biolay, bah oui, de fumoir.
Mais c'est la première fois que j'ose envoyer une chanson à quelqu'un que je connais pas personnellement. Pour le coup, c'est la seule fois où je suis passée par mon producteur, je savais qu'il le connaissait, je lui ai dit, écoute, j'ai fait cette chanson cette nuit. Il reste un couplet. J'ai pensé à Benjamin Biolay en l'écrivant parce que voilà, c'est, je sais pas, j'ai pensé à lui, c'était une évidence. Et en fait, ils l'ont envoyé. Et le lendemain, on s'est croisé, il m'a dit, on la chante quand? Et du coup, il a écrit son couplet. Il a été hyper bienveillant, vraiment. Et il a été hyper là, hyper présent, hyper féministe dans ses propos, en fait. Et ça m'a fait du bien de voir un homme aussi qui était contre le sexisme, en quelque sorte.
Toi, c'est quoi ta définition du féminisme?
La définition de base, c'est juste de l'égalité. C'est pas... En fait, le féminisme ne devrait même pas exister. En fait, c'est ce que je me dis. C'est que s'il existe, c'est que c'est un problème. Du coup, mon rêve, ce serait limite qu'un jour, il n'ait plus besoin d'exister, le féminisme. Je suis pour l'égalité pure et dure, en fait. Vraiment. Peu importe le genre. Et vraiment, le genre, c'est quelque chose de tellement important pour moi. Enfin, aujourd'hui, de devoir se justifier tout le temps de ce qu'on est, de notre... Enfin, c'est impossible, en fait. C'est invivable. Et moi, j'ai toujours eu ce côté un peu non-genré, voilà, même si je me définis pas comme non-binaire aujourd'hui ou quoi. Mais j'ai toujours aimé casser les codes et j'aime pas ce truc. Je sais que déjà, quand j'étais enfant, je refusais de m'habiller au rayon fille ou au rayon garçon, je mélangeais tout. Déjà, quand j'étais enfant, quand ma mère m'emmenait faire du shopping, j'ai jamais voulu, je m'ai jamais mis du rose par principe, par exemple. Voilà, j'en mets aujourd'hui, parce que je pense que je suis plus OK avec moi-même, mais j'ai jamais mis du rose quand j'étais gosse. J'avais l'impression qu'on m'obligeait à rentrer dans des cases dans lesquelles je voulais pas rentrer. Et même en étant enfant, genre ma mère, elle m'a mis une robe une fois, quoi. Et sur la photo, je pleure. En fait, je pense qu'à l'époque, je voulais pas. J'étais déjà hyper mal à l'aise avec le fait de devoir me justifier en fait de mon genre en fait en permanence, pas via des couleurs d'habits, via des jeux. Moi, je voulais pas aux poupées par principe aussi, je pense. Et voilà, j'ai été pleine de contradictions. Et je pense que la société évolue un peu sur ça, mais il y a encore du taf, notamment dans le sexisme. Hein. Franchement, il y a du taf et on le voit tous les jours. Et ça, c'est malheureux.
Et tu crois que ton style, ton parti pris vestimentaire, très référencé à la culture nippone,
complètement.
Voilà, les cheveux, les costumes, les matières, les couleurs, ça fait partie peut-être de ton appropriation de la féminité ?
C'est complètement ça. De toute façon, qu'est-ce que la féminité ? Je pense qu'aujourd'hui, la féminité, c'est plus juste mettre une robe forcément et se maquiller et de faire cette taille. Ça c'est pas les femmes d'aujourd'hui, ça, c'est la vision des boomers qui sont les femmes de notre époque. C'est autre chose. Être une femme, c'est juste se sentir femme, en fait. Mais se sentir femme pour plein de raisons, en fait. C'est juste que tu te réveilles et tu te dis, bah, en fait, mon genre, c'est femme, en fait. Il y a plus de code, en fait, aujourd'hui, je pense. En tout cas, s'il y en a, il faut les casser. Parce que tout le monde les casse. J'ai jamais vu une femme pareille dans la rue. Et heureusement, c'est la différence qui fait la beauté.
Drôle d'époque. Ouais. C'est ce que tu as choisi de nous lire.
Complètement.
C'est donc une chanson de notre chère Clara Luciani, qu'on va bientôt recevoir. Dans Écouter les filles, qui t'adore aussi.
Qui incarne merveilleusement bien notre époque aussi, du coup.
Tout à fait. Et bah, on t'écoute.
Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Tu marches même pas droit. T'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière. T'as pas l'air d'une femme. Où sont passés tes seins, ta cambrure de félin ? Tantôt mère nourricière, tantôt putain vulgaire. Conduis-toi comme une femme, comme une femme. Moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules, pour être une femme de mon époque. On vit vraiment une drôle d'époque. Tu voudrais voir en moi ta mère et ta sauveuse, que je porte ma croix en restant amoureuse. Mais je sais pas être cette femme. Moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules, pour être une femme de mon époque. C'est beau. J'adore cette chanson. Elle va contre ce qu'on attend de nous, en fait. En gros, elle entend nous dire que comment être la femme qu'on nous impose d'être, en fait. Et c'est exactement ce que j'ai vécu ces derniers mois avec ce monsieur qui trouvait que j'étais effrayante. Du coup, c'est quoi la solution ? Je dois faire quoi, en fait ? Je dois m'habiller comme ces messieurs veulent, prendre les chansons de ces copains compositeurs qui voudraient que je chante ? Non. Et du coup, je ne sais pas être la femme de son époque à lui, en tout cas. Et j'adore ce texte de Clara. Vraiment, il est très bien écrit et j'adore Clara, de toute façon.
Sachant qu'il vit dans une époque qui, en fait, n'existe plus.
Non, mais le Moyen-Âge, ça fait longtemps que ça n'existe plus, de toute façon. J'y étais pas, hein, je sais pas. Je pense qu'il y avait des femmes qu'on avait marre à cette époque aussi. Mais
elles se sont brûlées quand elle montrait qu'elles en avaient un peu trop marre.
Voilà, carrément. Oui, Moyen-Âge, c'est fini. Il faut arrêter. Là, on est en 2021. Plein de choses ont changé. C'est plus à nous de changer, c'est à eux.
Justement, en parlant d'époque, on parle aussi de continent. On est en France où, effectivement, une artiste peut encore être agressée, insultée, menacée par ce qu'elle dit, tout simplement, ce qu'elle transmet. Il y a des pays où des anonymes se font tuer, je pense à la Tchétchénie notamment.
Exactement.
Toi, comment tu te sens justement par rapport à cette actualité dans le monde qui peut être extrêmement anxiogène ?
Je me sens impuissante et d'autant plus que notre gouvernement l'est aussi, en fait. C'est qu'il y a, par exemple, la Tchétchénie, il y a plein d'appels de faits chaque jour. Mais en fait, on est dans un pays, nous, déjà, où on a du mal à légaliser la PMA, donner des droits à des femmes, en fait. En plus, des droits qui paraissent évidents. Enfin, je veux dire, ça se passe très bien dans d'autres pays. Mais pourquoi dans le nôtre, là, ça tout est peut-être plus compliqué. Donc, je me dis comment ils peuvent aller aider en Tchétchénie s'ils sont incapables de faire ça. C'est deux choses différentes. Mais au final, le fond, on est dans une époque où on est impuissant. Impuissant, et moi, j'aimerais... Enfin, on parle quand même d'endroits quand même où c'est des sortes de camps de concentration quand même pour les gays. Ça existe aussi pour les Ouïghours notamment. Enfin, on est quand même dans une époque où on sait tout ça. On ne peut rien faire à part mettre des stories ou à faire des dons ou en parler. Voilà, au moins ne pas laisser dans le silence, mais on est hyper impuissant. Si je veux prendre un avion, aller là-bas et tout arrêter, je fais comment ? Je peux pas faire ça en fait. Donc c'est un peu regarder tout s'écrouler et en chialer quoi. Mais je pense que ça ira avec le temps. Peut-être que ça, je pense que nos gouvernements devraient vraiment se bouger, même si là, pour le coup, je suis beaucoup moins utopiste que sur le reste.
Est-ce qu'il y a eu des courriers de fans qui t'ont particulièrement touché, ému ?
Ouais, il y en a eu plein, pour plein de raisons différentes. J'ai eu beaucoup de messages déjà d'ados qui ont fait leur coming out grâce à Amour Censure qui passait à la radio. En tout cas, ça a ouvert le sujet et du coup, ils se sont sentis rassurés, ils ont pu en parler à leurs parents. Rien que pour ça, je suis très heureuse d'avoir fait cette chanson, c'est trop beau. Je l'aurais enlevé peut-être un poids, un truc qui est lourd à porter, quoi. Un coming out, c'est chiant à faire. C'est pas un moment de vie. C'est un moment de vie hyper important, mais c'est un moment de vie qu'on n'a pas spécialement envie de vivre avant de l'avoir fait. Parce qu'on a peur toujours que ça se passe mal, même si nos parents nous rassurent, c'est déjà pas facile. Mais alors, si les parents lancent la discussion et rassurent la personne en face d'eux, bah, du coup, tout paraît plus simple. Donc, ce courrier-là, par exemple, m'a vraiment beaucoup touchée. Et malheureusement, j'ai un courrier qui m'a déboussolée aussi et qui m'a vraiment bouleversée. Bah, du coup, ce qui est hyper triste, mais en fait, c'est un jeune homme qui s'est suicidé parce qu'il supportait pas son homosexualité. En fait, sa tante m'a contactée et ils ont diffusé Amour Censure pendant l'enterrement, en fait. Et elle m'a remerciée et tout. J'ai été bouleversée. Je savais même pas quoi dire. Je me suis dit, voilà, en fait, cette chanson, elle a dépassé tout ce que je pouvais faire, en fait. Ça m'a dépassé moi, en fait. Elle appartient aux gens et ça peut rassurer, ça peut faire du bien. Et même dans cette histoire qui est horrible, en tout cas, elle m'a remerciée d'avoir fait cette chanson pour que ça n'arrive plus jamais, ça. Et ça m'a bouleversée. J'étais pas bien pendant plusieurs jours, franchement. Voilà. Et j'ai plein d'histoires comme ça. Et du coup, je me dis que la musique, ça dépasse la vie, ça dépasse tout, en fait. Et ça peut sauver des vies, ça peut accompagner des fins de vie, ça peut éviter que la vie s'arrête parfois, je pense. Non, ça a une puissance. Ouais. Et du coup, les gens, en fait, même, et leurs émotions via les chansons que je fais me confortent dans l'idée que je dois continuer de faire ça, en fait.
Amour Censure est devenu un hymne.
Oui.
Et toi, quels sont les hymnes qui te portent?
Moi, je sais que, par exemple, avant Amour Censure, qui est devenu, du coup, c'est vrai mon hymne sur ce sujet-là, mais il y a une chanson qui m'a énormément soulagée à l'époque, c'était College Boy d'Indochine, qui parlait, voilà, d'homophobie, d'harcèlement. Et moi, quand je me suis fait agresser, elle est sortie cette chanson, en fait. Donc, ils m'ont accompagnée pendant des années. Et je remercie souvent Indochine en interview parce qu'ils en ont fait plusieurs des hymnes, eux. Et notamment, je pense à Troisième Sexe, voilà. Et en fait, ils ont fait énormément pour cette communauté sans spécialement en faire partie, en fait. Enfin, je veux dire qu'ils en font partie parce qu'ils ont fait des choses énormément pour la communauté LGBT. Mais voilà, c'est pas Nicolas Sarkis, c'est pas quelqu'un qui dit je suis gay. D'ailleurs, on ne connaît pas, enfin, moi, je ne connais pas son orientation sexuelle. Et en fait, on ne lui a jamais demandé, on s'en fout, en fait. Mais il est là quand même pour la communauté. Et du coup, il m'a toujours rassuré, ce groupe. La Grenade de Clara aussi. C'est un hymne. C'est un hymne pour les femmes. Et en fait, il y en a plein des hymnes qui sortent. Il y a plein de chansons qui pourraient en être, en tout cas. Ta reine d'Angèle, voilà. En tout cas, ça, c'est pour la communauté LGBT. Mais voilà, il y a quand même des choses qui se passent, je trouve, en ce moment. On est tous en train d'essayer de faire des grandes chansons, en tout cas, qui resteront dans le temps. On essaye, en tout cas, de faire des chansons qui voudront dire la même chose dans 10 ans et qui j'espère, n'auront plus le même effet, puisqu'on sera trompé dans 10 ans. Il y aura peut-être plus d'homophobie et on n'aura plus besoin de faire ça, mais j'espère.
Comment tu te ressens dans ce milieu de l'industrie de la musique où il y a quand même de plus en plus de femmes, donc évidemment de plus en plus de soutien? Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ça en tant qu'artiste?
Mais c'est la première fois où je suis épanouie, en fait, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a eu mon premier album où c'était « Salut, j'existe ». Oui, il y a eu « Ta marinière », il y a le succès de « Ta marinière », ce qui était assez fou parce que je la jouais dans la rue 5 ans avant. Mais il y a eu le deuxième album où j'ai commencé à sentir ce sentiment de liberté que je n'ai pas pu atteindre totalement parce que je n'ai pas pu le défendre comme je voulais avec cet arrêt de tournée, de promo et tout ça. Et là, du coup, je me sens complètement libre de dire tout ce que j'ai envie de dire. Je pense que j'ai dit pas mal de choses que je voulais dire. J'ai plus trop de secrets. Du coup, ça fait du bien. Je me sens soulagée, vide mais remplie d'inspiration et prête à repartir au combat. C'est ce que je dis souvent. Et surtout, dans ce milieu, il y a plus de femmes. Je me sens moins seule aussi. Moins seule. Et j'ai plus peur, en fait, aussi. Finalement, c'est un paradoxe parce que l'album s'appelle Étoile Flippante, mais j'ai plus peur des gens. J'ai moins peur des gens. J'ai moins peur du regard, j'ai moins peur de me faire agresser par un imbécile après Amour Censure. J'ai moins peur de personnes qui disent que je suis effrayante, j'ai moins peur d'eux. Je me sens plus forte, je me sens moins seule et libre, en fait, vraiment.
Merci beaucoup, Oshi.
Merci beaucoup.
C'était Écouter les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.